Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, on parle ce soir des droits sportifs dans lesquels vous allez le voir. Facebook veut être également un acteur de poids et nous sommes pour en débattre avec téméraire et résistant Emmanuel Paquette de l'Express, Emmanuel Guiton de Libération.
Amael, pardon.
Résistant et combatif. Depuis 19h, on parle de Facebook dans Soft Power et on élargit un peu la perspective maintenant dans cette dernière partie de l'émission. Et ce soir, dans le club de la presse numérique, on s'intéresse aux droits sportifs et à la place croissante que prennent les grandes plateformes d'Internet dans ces acquisitions. Facebook, par exemple, diffuse en direct depuis le début de la saison l'intégralité de la Liga Espagnole, la première division de football en Espagne, la Ligue Espagnole, mais seulement à destination de 8 pays, notamment y compris l'Inde, le Sri Lanka et le Pakistan. Alors pourquoi ces entreprises se sont lancées dans la bataille des droits sportifs? On en parle avec Emmanuel Paquette de l'Express et Amael Guiton de Libération qui sont restés avec nous. Je l'ai dit, Emmanuel Paquette, pour commencer, peut-être un panorama des acquisitions en cours ou qui ont eu lieu. Amazon souhaiterait, par exemple, racheter 22 chaînes de sport à Disney.
Oui, effectivement, ça fait depuis un certain temps déjà qu'on voit les grands de la Silicon Valley intéressés par les droits sportifs, généralement des sports qui font consensus, hein, qui sont des grands sports aux États-Unis. Ça a commencé par la NFL, donc le football américain. Il y a eu la NHL, donc les matchs de hockey professionnels. Il y a eu un peu de NBA. Maintenant, on arrive directement sur les droits du foot. Donc, vous parliez tout à l'heure de la Liga, donc la Liga espagnole. Mais il y a déjà la première ligue qui est disponible aujourd'hui chez Amazon Prime. Il y a quelques matchs qui vont être diffusés à partir de septembre 2019, donc dès l'année prochaine, sur Amazon Prime. Et on voit effectivement que ce même Amazon aujourd'hui cherche à racheter 22 chaînes de télévision sportive à Fox, qui font aujourd'hui partie de la fusion Fox-Disney.
Alors là, ça a été imposé par le régulateur américain.
Exactement. Donc aujourd'hui, il y aurait au moins deux candidats qui sont d'une part Amazon, d'autre part le fonds d'investissement Blackstone. Le tout, ça serait pour une valorisation de l'ordre de 20 milliards de dollars quand même pour ces 22 chaînes. Alors ça ne concerne que les États-Unis puisque ce sont des chaînes régionales avec des droits régionaux. Mais ça veut dire que Amazon aujourd'hui est intéressé par le flux, puisque pendant longtemps, on s'est demandé comment les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon allaient attaquer la télé, puisque aujourd'hui, le gros marché de la publicité, bien plus qu'Internet, c'est le marché de la télévision. Le gros du gâteau pour les GAFA aujourd'hui, c'est la télévision. Donc l'idée, c'est comment ils vont rentrer sur le marché de la télévision. Est-ce que c'est en entrant directement à l'intérieur des programmes télévisés, donc vous savez, avec des petites clés comme les clés HDMI qu'on pouvait brancher sur son écran de télé pour accéder à YouTube, etc. Ou c'est directement aller sur YouTube pour regarder des matchs, sur Amazon pour regarder des matchs. Donc visiblement, il y a un changement d'approche de la part des GAFA qui est aujourd'hui d'intégrer les droits du sport pour essayer d'attirer les internautes.
Amael Guiton.
Oui, puis pour le coup, du côté d'Amazon, là, ça serait même un changement d'échelle. C'est-à-dire parce que jusqu'à maintenant, on était plutôt effectivement dans des négociations de droits de diffusion. Alors souvent d'ailleurs en complémentarité, hein, dans le cas de Twitter notamment, je crois que c'est surtout ça quand même. Là, il s'agit de racheter des chaînes. Donc on voit bien que on passe peut-être
à
une autre échelle, on passe un cap. En tout cas, effectivement, c'est une tendance lourde, j'ai l'impression, depuis au moins, je dirais, 2-3 ans, quelque chose comme ça, Emmanuel.
Oui, exactement. On voit. Alors, c'est vrai qu'au début, ils mettent des petits tickets, parce que le problème, c'est un peu comme quand vous mettez le doigt dans l'engrenage des droits sportifs. Au début, ça vous coûte pas trop cher, et puis de plus en plus cher, donc ils y vont un peu à pas compter. D'autant qu'aujourd'hui, les ligues professionnelles se servent d'Amazon, Google, etc., pour faire monter les enchères en disant aux autres, donc aux chaînes de télévision classiques ou aux opérateurs télécoms, puisqu'aujourd'hui les opérateurs télécoms, notamment en France, diffusent des matchs de football, en disant attention, si vous y allez pas et vous mettez pas l'argent qu'il faut, il y a Google, Apple, Facebook qui pourraient vous les prendre.
Qui vont le faire. Alors, quels sont les objectifs, au fond, pour Amazon, pour Facebook? Pourquoi être dans ce secteur? Qu'est-ce qui les motive à investir autant d'argent dans ce domaine, Emmanuel?
Il y a deux raisons. La première, c'est la publicité, puisque le gâteau publicitaire autour de la télévision aujourd'hui est un marché qui est bien plus important que le marché d'Internet encore. Donc, ce qui fait que ces acteurs-là ne sont pas encore rentrés sur le marché de la télévision, donc de la télévision. C'est un moyen de mettre un orteil déjà
dans ce marché-là. Petit doigt de pied.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la social TV. Donc, c'est de pouvoir permettre en fait une interaction entre les internautes qui regardent le match en direct, qui puissent discuter, qui puissent échanger. changer et surtout faire en sorte qu'ils restent pendant toute la durée du match. Donc un match, ça peut être relativement long et pas simplement 30 minutes.
Et puis ça crée aussi un rendez-vous d'une certaine manière à Malguiton. Vous avez un rendez-vous et là tout le monde va donc venir sur ces réseaux.
Bah pour le coup,
on se le
disait un peu hors antenne juste avant, mais finalement les matchs sportifs, c'est les seuls grands rendez-vous qui restent finalement aujourd'hui, même encore devant la télé traditionnelle. Après, dans le cas d'Amazon, c'est aussi un moyen très probablement de renforcer leur fameuse offre Amazon Prime, hein, leur offre de SVOD, y compris d'ailleurs en fidélisant leurs abonnés, parce que pour le coup, le rendez-vous sportif, c'est aussi quelque chose dont on peut potentiellement rester captif, me semble-t-il.
Facebook diffuse, on l'a dit depuis cette saison, l'intégralité des matchs de Liga espagnole, la première division espagnole, gratuitement et en direct à destination de l'Espagne et de 8 autres pays. Pourquoi Facebook se lance dans la diffusion d'événements sportifs avec cette première acquisition de droits importante, Emmanuel ?
Alors pourquoi cette région-là en fait plus que les droits sportifs ? Parce qu'ils auraient pu racheter les droits un peu partout dans le monde. Alors d'une part parce que ces droits sportifs-là sont beaucoup moins chers quand on va en Asie, puisque le marché asiatique aujourd'hui sur le sport, c'est encore un marché à venir, un marché en pleine croissance. La Chine s'intéresse par exemple au foot, mais l'Inde, c'est pas le sport national. Ça commence à intéresser, mais c'est pas le sport national. Ça reste notamment le cricket aujourd'hui, hein, le premier sport en Inde. Donc ça permet de mettre la main sur des droits sportifs à un coût relativement faible. On parle aujourd'hui de l'ordre de 80 millions d'euros sur 3 ans pour Facebook pour avoir la Ligue espagnole.
Il n'y a pas une particularité de Facebook en Espagne acheter des droits pour le Sri Lanka, le Pakistan et l'Inde? Expliquez-nous ça.
Et ben, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le simple relais de croissance de Facebook, avoir des nouveaux utilisateurs, ça passe nécessairement par l'Asie et l'Afrique. Donc pour aller en Asie et en Afrique, il faut séduire les internautes.
Et on le fait avec la Liga espagnole.
Oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont des stars internationales. Aujourd'hui, par exemple, Messi, c'est aujourd'hui un des joueurs les plus connus au monde. Donc c'est plus simple de vendre la Liga espagnole, je pense, en Asie, que la Ligue française, par exemple, de football, même si ça peut changer, avec Neymar notamment. Mais là, il y a tellement de stars dans la Liga espagnole que ça peut attirer effectivement des utilisateurs de toute l'Asie. Par ailleurs, pour l'Afrique, Facebook a signé un deal avec Fox pour retransmettre les matchs de boxe en direct de tous les matchs de boxe qui seront diffusés en Afrique. Et donc, on voit que c'est un moyen aussi de détendre le nombre d'utilisateurs en Afrique. Là, il y a un vrai relais de croissance puisque c'est quasiment aujourd'hui 1 milliard et demain, peut-être 2-3 milliards de personnes qui seront sur le continent africain.
Amel.
Non, puis il y a aussi, je pense, des questions de calendrier. C'est que souvent, c'est des négociations qui se font pour plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que pas mal de commentateurs aux États-Unis voient le rachat potentiel des fameuses 22 chaînes sportives de Fox par Amazon. C'est que c'est aussi une manière de court-circuiter ces histoires de calendrier en pouvant diffuser des événements sans avoir à attendre les échéances de renégociation de droits sportifs. Donc c'est...
Avec ce sujet, il semble une fois de plus que le football, puisqu'on parle notamment de football, est au-dessus de la mêlée en termes d'intérêt pour les diffuseurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce phénomène se perpétue, s'accentue, Emmanuel ?
Je pense que là, pour l'instant, on voit que les grands acteurs testent un peu le marché, voir s'ils arrivent à séduire les internautes avec ça, créer de l'interaction entre les internautes pendant les matchs. Parce que ça permet de les garder longtemps. Ça permet de dire aux annonceurs aussi, bah regardez, les gens sont présents, restent bien présents devant le match, discutent autour du match. Donc on peut leur glisser des bandes annonces, on peut leur glisser des publicités dans leur flux de discussion en même temps qu'ils regardent un match, ce qui n'est pas possible aujourd'hui à la télévision, hein, ou très peu encore. Donc ça permet d'ouvrir un nouveau marché pour ces GAFA et de commencer à venir de s'attaquer directement à la télévision de flux. Donc on voit jusqu'à maintenant que la télévision de flux, donc TF1, France Télévisions, faisait l'inverse, hein. On commençait à proposer leurs programmes en télévision de rattrapage et on voit qu'en fait les GAFA font le chemin inverse. Ils ont proposé en rattrapage plein de contenus sur YouTube, etc. Et maintenant, ils arrivent vers le flux. Donc, les deux sont en train de se percuter. Et je pense que la bataille, là, c'est qu'on en est qu'au début et ça va se faire à coups de milliards et très certainement autour du sport.
Est-ce qu'il y a aussi un enjeu pour ces plateformes à bien réguler la présence des contenus sportifs sur Internet, sur les plateformes parce que par exemple les images des buts, des matchs, elles arrivent très vite sur les réseaux sociaux, même quand les acteurs ne le souhaitent pas, hein, tout le monde les captures d'écran ou les vidéos, etc. Et se mettent à se proliférer sur les réseaux sociaux alors même que la valeur de l'acquisition des droits sportifs s'en est trouvée affectée. Est-ce que c'est, Amel Guiton, pourquoi pas une manière de lutter ou de prévoir de lutter contre le piratage ?
Ça peut être effectivement une manière proactive entre guillemets d'éviter des contentieux. Enfin, c'est ça pour le coup, c'est quand même aussi un grand classique de ces acteurs-là. Donc oui, ça, c'est on négocie pour éviter effectivement une question qui d'ailleurs se pose de manière assez récurrente pendant les grandes compétitions. Ouais.
Si on en revient toujours à cette fameuse directive qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, mais la fameuse directive européenne sur la question des droits voisins, si elle venait un jour à être appliquée au terme de longs débats, si elle était appliquée dans les conditions qui sont les siennes, à savoir que les plateformes seraient elles-mêmes obligées d'auto-censurer des contenus si elles n'avaient pas déjà conclu d'arrangements autour des droits, ça voudrait dire que
qu'il vaut mieux signer ses droits
parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de vidéos du fameux but de nos petits français dans la seconde où ils l'ont marqué, ce qui serait quand même problématique parce qu'évidemment ces images on les a tous vues et elles ont généré un trafic absolument inouï sur Facebook et en l'occurrence, Facebook a tout intérêt à ce qu'il y ait des accords qui soient conclus, ou en tout cas qu'il ait une partie de ses droits si ce type de texte venait non seulement être voté en Europe, mais plus tard, qui sait, on peut l'espérer, à se généraliser ensuite.
Vous regardez juste les buts.
Hein, moi, je regarde que les buts. C'est pas vrai. Je peux regarder un match en entier s'il y a des gens qui m'aident.
Pour la finale de la Coupe du Monde, voilà. Comme moi. Emmanuel Paquette.
Il se trouve que c'est vrai que même dans les stades où les gens regardent un match de foot, tous les opérateurs télécom vous le diront, c'est au moment où les consommations explosent. C'est-à-dire que quand il y a un but.
C'est pas anormal, ça, mais bon.
Si, parce que normalement, vous avez payé votre ticket, donc le but du jeu, c'est de regarder ce qui se passe sur le terrain. En fait, les gens regardent leur écran. Il se trouve que dès qu'il y a un but, ils veulent voir le ralenti. Et ça, vous pouvez pas le voir sur l'écran. Donc si aujourd'hui, c'est un opérateur télécom qui vous le propose, mais demain c'est un opérateur Google, Apple, Facebook ou Amazon, c'est aussi aujourd'hui un moyen de les récupérer sur leur smartphone, y compris quand ils sont dans un stade en train de regarder le match en question.
Amal Guiton.
Ceci dit, cette question-là, ça pose aussi la question de la répartition géographique des droits, parce qu'on voit bien que c'est compliqué, parce qu'on négocie par pays ou éventuellement par grande région, etc. Alors que c'est des acteurs qui ont plutôt pour mode de fonctionnement une diffusion mondiale. Donc c'est pas forcément simple pour eux de s'ajuster.
Pour rebondir sur ce que disait Amal, il faut savoir qu'au niveau de la Commission européenne, aujourd'hui, il y a une volonté directe de faire en sorte que les droits ne soient plus fragmentés d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que demain, un Français puisse s'abonner à Sky, par exemple, en restant à Paris, ou puisse s'abonner à des offres italiennes en restant à Paris. Alors aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les majors étaient contre. Mais là, maintenant, Disney, pour pouvoir fusionner avec Fox, a dit d'accord. Et il y a une deuxième major, dont je viens d'oublier le nom, a donné aussi son accord. Donc il est fort possible que l'Europe soit un des premiers pays sur lequel il n'y ait plus dans les années qui viennent, de droits qui soient pays par pays, mais sur tout le continent.
Dernière question brièvement, Emmanuel Paquette. France Télévisions a utilisé une technologie de Twitter pour retransmettre en direct des matchs du 15e de France pendant le tournoi des 6 nations.
Du 15e aussi, hein, si vous voulez.
Du 15e, ou du 15, pardon. On pourrait dire du 13 aussi. Chez nous, c'est du 13.
Du 13. En fait, toutes les chaînes de télévision aussi essayent de faire du social TV, de la social TV. TF1 a tenté de le faire, France Télévisions le fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les chaînes tentent aussi de leur côté de mettre en avant cette technologie parce qu'ils sentent bien que s'ils ne le font pas, ils laissent la porte ouverte à Google, Apple, Facebook et Amazon.